Bonjour à tous. Bonjour plus particulièrement à des personnes qui nous rendraient visite aujourd'hui, qui seraient parmi nous, invitées ou accueillies. Vous sentiez vraiment dans la présence du Seigneur ici et au milieu de frères et sœurs parmi nous. Voilà, je voudrais vous inviter à ce que nous prions avant d'ouvrir la parole de Dieu, si vous voulez bien. Notre Dieu, nous inclinons avec respect devant ce message éternel que tu as laissé aux hommes, Seigneur, dans lequel tu as manifesté toute ta volonté. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu as voulu, par ce message, nous amener au salut, reconstituer ce qui en nous avait été détruit par le péché, restaurer l'ordre que tu veux dans nos vies, Seigneur, nous indiquer une nouvelle direction, celle de te suivre, d'accomplir ton dessein, d'accomplir ta volonté, Seigneur, sur cette terre, te plaire, t'honorer. Et Seigneur, c'est ce que nous voulons faire ce matin en ouvrant cette parole. Que ton esprit puisse nous parler à chacun, Seigneur, notre Dieu. Amen. Dans ma lecture de la parole ces derniers mois, il y a deux caractéristiques du comportement et de la pensée de notre Seigneur Jésus-Christ qui m'ont plus particulièrement marqué. La première, j'en ai fait le sujet d'une prédication donc, que nous avions partagée ensemble lors du culte en commun avec l'Assemblée de l'Épège. Cet été, au milieu de l'été, peut-être un certain nombre d'entre vous étaient absents. J'avais intitulé cette prédication un appel à la cohérence, cette notion de la cohérence qui habitait à la perfection notre Seigneur, qui a constamment, au cours de son ministère, dit, proclamé ce qu'il croyait profondément au fond de lui. Il était en parfaite harmonie entre ses paroles, ses pensées, sa foi, sa connaissance de son Père. Et il a constamment agi aussi en fonction de ce qu'il proclamait et de ce qu'il pensait. Il n'y avait en lui aucune faille, aucun éclatement, comme nous le vivons nous-mêmes dans notre nature humaine, et l'apôtre Paul résume bien ça dans l'Épître aux Romains en disant « Je fais le mal ». Que je ne veux pas faire et je ne fais pas le bien que je veux faire. Et il témoigne de cette fracture qu'il y a au fond de nous, cette incohérence perpétuelle dans laquelle le Seigneur veut intervenir et recoller les morceaux entre ce que nous savons de lui. Si je suis l'Éternel, alors agissons vis-à-vis de lui comme vis-à-vis de l'Éternel. Pensons comme l'Éternel veut que nous pensions. Parlons comme l'Éternel veut que nous parlions. Je ne veux pas refaire cette prédication ici. La deuxième marque qui m'a intéressé dans le comportement et la pensée de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est elle est déjà fortement apparue dans les deux prédications de rentrée que nous avons eues avec Arnaud et Raphaël récemment, qui nous ont commenté certains textes de la parole de Dieu sur lesquels je vais revenir d'ailleurs. C'est le sens des priorités dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. La notion de priorité. Et un temps de rentrée encore, nous ne sommes qu'à la fin du mois de septembre, et en considérant une des caractéristiques principales de notre Dieu, c'est-à-dire Dieu est un Dieu d'ordre. Il veut que dans notre vie, à la fois nous soyons cohérents dans tout ce que nous pensons, mais aussi que notre vie soit en ordre et que nous vivions selon une certaine chronologie, selon l'ordre d'importance des choses, conformément à ce que lui-même a défini dans sa parole. Et je vous invite à considérer au travers de quelques textes épars, principalement dans la vie de Jésus, et ça a été repris la plupart du temps par l'enseignement de l'apôtre Paul, cette notion qui habitait véritablement la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Les justes priorités, les bonnes priorités. Et c'est cette question des priorités, je ne sais pas si ça va démarrer, voilà. C'est une affaire qui a commencé tôt dans l'histoire humaine. Par la bouche du prophète Malachi, Dieu interrogeait son peuple, mais aussi au-delà de son peuple, c'est toute l'humanité entière, et c'est nous qui l'interroge aussi. Si je suis père, « Où est l'honneur qui m'est dû ?» C'est dans Malachi, chapitre 1, verset 6. Ne cherchez pas le texte, je le cite. « Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû ?» Question de cohérence, celle que j'évoquais tout à l'heure. Posée dès le premier couple, Adam et Ève. Adam et Ève, ils avaient leur père en vis-à-vis, en face à face, en intimité. Où est l'honneur qu'il leur devait? Comment l'ont-ils manifesté? Nous connaissons la suite de l'histoire. Après Genèse chapitre 2, il y a le chapitre 3, l'histoire de la chute. Deuxième question, évoquée par Malachie. Si je suis maître, où est la crainte, c'est-à-dire l'obéissance, la soumission qu'on a de moi? Question de priorité. Adam et Ève ont choisi la fuite en avant, dans l'indépendance, dans l'autonomie, suggérée par Satan, plutôt que la priorité à la soumission à leur Créateur, à la vie en harmonie avec lui, dans la dépendance du Père. Ils ont préféré se placer devant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, en voulant s'en approprier le fruit, l'autorité de cette définition du bien et du mal, plutôt que de rester là où Dieu les avait voulus, devant l'arbre de vie, parce que c'est Dieu qui insuffle la vie. Question donc primordiale dès les origines. L'Écriture nous montre, et je vais énumérer un certain nombre de ces priorités, mais peut-être la plus importante et celle de laquelle dont tout découle, que Jésus, le second Adam, a élevé à la perfection cette notion de priorité réservée à l'autorité divine sur sa vie. Ça a été cité, je crois, par la prière de Rosa tout à l'heure, dans Jean au chapitre 9, au verset 4, Jésus disait « Il faut que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé. » Jésus était littéralement habité par l'urgence de l'obéissance à son Père. Priorité, d'abord, sur sa volonté propre, le « moi », ce qu'il aurait pu vouloir décider de lui-même en dehors de la volonté de son Père. Et Jésus, dans une de ses dernières prières, avant d'être arrêté, d'être porté sur la croix, il a dit « Non pas ma volonté, mais la tienne. Non pas ma volonté, mais la tienne. » Dans Luc au chapitre 22, verset 42. La priorité de l'obéissance ultime sur la tentation de l'indépendance, de la fuite, la préoccupation d'abord et avant tout de soi, qui est souvent notre caractéristique, il faut bien le reconnaître. Tout le récit de la tentation de Jésus-Christ après son baptême tourne autour de cette question de la priorité d'autorité sur la vie de Jésus-Christ. Est-ce que c'était l'orgueil de la vie, l'orgueil des possessions, l'orgueil de la maîtrise qui allait habiter Jésus ou la soumission à son Père? Jésus a choisi, c'est très clair. Une deuxième chose qui apparaît dans la vie du Christ, c'est la priorité de la soumission à son Père sur l'héritage du passé, sur la pression familiale. Et lorsque nous connaissons l'histoire de Jésus, sa vie, déjà jeune enfant, dans le temple, alors qu'il a échappé à la vigilance de ses parents pour se mêler à ceux qui enseignaient la parole de son Père céleste, il répond à son Père terrestre, Joseph, « Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Pour mettre une certaine distance avec ce père adoptif qui était Joseph, qui l'avait amené à l'âge d'une certaine maturité spirituelle où maintenant il passait du Père terrestre à l'autorité du Père céleste. Et c'est une étape qui est décisive pour chacun d'entre nous, humains, que de savoir passer de cette autorité terrestre à l'autorité céleste. C'est ce qui fait le sens de notre conversion, du moment où nous consacrons notre vie au Seigneur. Un peu plus tard, dans le récit qu'avait développé Raphaël il y a quelque temps, les noces de Cana, rappelez-vous cette parole qui peut être un peu choquante, un peu dure, vis-à-vis de sa mère, où il lui dit « Femme, mon heure n'est pas venue. » Au moment où sa mère l'incite à obéir à son plan de carrière à elle, à son projet à elle, c'est-à-dire c'est maintenant qu'il faut que tu agisses, c'est maintenant qu'il faut que tu interviennes, Jésus-Christ met cette distance avec Marie, sa mère, pour lui signifier en quelque sorte, maintenant ce n'est plus toi non plus, ma mère, qui influence ma vie, mais c'est mon Père céleste. Et Jésus, tout au cours de sa vie, a été, et on reviendra là-dessus sur une deuxième prédication, parce qu'il n'y a pas assez de temps pour aborder toutes ces priorités dans la vie de Jésus-Christ, a organisé son temps selon le timing que son Père lui imposait. Mon heure n'est pas venue. L'heure est venue constamment dans la vie de Jésus. Et donc, Jésus met cette distance avec sa mère, et on verra que ce n'est pas du tout un manque de respect pour il avait une autre priorité vis-à-vis d'elle. Dans des termes qui, à première lecture et selon certaines traductions dans nos bifs, peuvent paraître choquants, dans Luc au chapitre 14, verset 26, vous avez peut-être dans vos traductions, « Si quelqu'un vient à moi sans haïr son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie ne peut être mon disciple. » Dans ma traduction, il est dit « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer. » Et Jésus ici trace aussi un ordre de priorité. Il n'est pas question pour lui, on le verra un peu plus loin, qui a donné l'enseignement d'honorer ses parents, etc., de mettre une distance irrévocable, une rupture avec ses parents. Mais il est question pour lui de lui dire qu'il y a une qualité de soumission, une qualité d'amour qui, comparativement à l'amour familial, filial que l'on peut avoir, doit dépasser cet amour. Lorsque nous nous tournons vers le Père Céleste, notre soumission au Père Céleste doit dépasser cette obéissance à ceux qui nous sont les plus proches. Le prophète Samuel, en reprenant Saül, replaçait une autre priorité du même ordre. Il disait « L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. » Il met la priorité de l'obéissance à Dieu sur la soumission légaliste, rituelle, religieuse à laquelle Saül cédait. Priorité à l'obéissance au Seigneur. Priorité également à l'autorité divine. Lorsque les apôtres, en état d'arrestation devant le tribunal du Sanhédrin, disent « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Priorité à l'autorité de Dieu, sur l'autorité même légale, lorsqu'il y a incompatibilité ultime entre les deux et pas de composition possible dans l'obéissance prioritaire à notre Dieu. Et il y a aujourd'hui, un peu de partout dans le monde, et nous en reparlerons dans un culte prochain consacré plus spécifiquement à l'Église persécutée, il y a des chrétiens qui vivent ce dilemme de priorité, soumission à l'autorité légale ou soumission à leur Dieu, et qui font ce choix au prix de torture, au prix d'emprisonnement, au prix parfois de la mort, à l'autorité de Dieu sur leur vie. Sur ce recalage de priorité dans le domaine de l'autorité à laquelle je me soumets nous interroge nous aussi. Nous interroge sur nos propres caractères, rebelles, indépendants, notre préoccupation du moi, notre égoïsme, notre propension naturelle à faire des choix qui sont souvent ouvertement et consciemment contraires à la volonté explicite de Dieu dans nos vies. Et nous nous retrouvons en porte-à-faux par rapport à cette autorité que Dieu veut avoir sur la conduite individuelle et indépendante de nos vies. Ce recalage de priorité nous interroge aussi sur les liens qui peuvent exister encore dans nos vies, liés à la culture, liés à l'emprise familiale, liés à nos expériences du passé, parfois des expériences douloureuses, qui ont encore un poids d'influence dans nos vies plus important que le fait que nous appartenons à un autre Père maintenant, que nous sommes passés d'un héritage, fût-il familial, à un Père céleste, à une nouvelle famille, que nous avons été adoptés. Et il y a parfois dans nos vies des freins, des luttes encore que nous menons, des luttes épuisantes, inutiles, par rapport à cet héritage du passé. Ce recalage de priorité dans lequel le Seigneur nous conduit nous incite aussi à nous poser la question de l'influence que le monde a sur nous, sur notre mentalité. Il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. La mentalité ambiante qui est martelée sur nous à longueur de journée par les médias et à laquelle nous prêtons écoute, une oreille peut-être pas attentive en nous disant « ça ne m'influence pas », mais qui peu à peu refaçonne nos mentalités par rapport à la mentalité d'enfant de Dieu que Dieu veut que nous développions dans notre cœur, dans nos pensées, et ensuite que cela se traduise dans nos actes. J'en prends pour seul exemple la campagne actuelle qui est menée au niveau médiatique pour la validation du mariage homosexuel. Je ne sais pas si vous avez pris un peu de recul par tout ce que nous entendons, mais il y a une voix univoque pour dire que c'est la seule position possible. Il y a une interdiction à penser autrement, une interdiction au débat, au prix de contre-vérités scientifiques. Et je suis médecin, j'ai fait passer à quelques-uns d'entre nous un article récent par un psychiatre éminent qui a revu toute la littérature sur l'homoparentalité et qui dit qu'il n'y a pas de preuve du tout que cette homoparentalité est sans influence sur l'identité de l'enfant, qu'il y a au contraire de nombreuses études qui témoignent de l'influence sur la mentalité de l'enfant et son identité ensuite. Mais on nous dit et on nous martèle à longueur de journée le contraire, pour que peu à peu notre façon de penser soit recalée conformément au monde et non pas conformément à ce que la parole de Dieu dit et enseigne. Cela nous interroge, à quelle parole je prête le plus d'écoute, la voix du monde ou la parole de Dieu ? Un ensemble de priorités dans le domaine de l'autorité, desquelles découlent les priorités suivantes que je veux aborder. Une priorité de préoccupation. L'épisode du repas chez Marthe et Marie, dont Arnaud avait parlé dans une de ses prédications, nous confirme bien cette affirmation que l'on retrouve dans Matthieu au chapitre 6, verset 33. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. Priorité de préoccupation, priorité de l'affirmation de la domination de Dieu, c'est la notion de royaume de Dieu, sur nos vies, et donc de la confiance que nous devons lui faire sur la préoccupation excessive, anxieuse, angoissante que nous avons par rapport à toutes les contingences terrestres, y compris les contingences tout à fait légitime, le manger, le boire, se vêtir. Et en ce qui concernait l'histoire de Marthe et Marie, vous vous souvenez peut-être de cette histoire, mais la préoccupation de préparer un repas à l'invité qui était là, Jésus-Christ en l'occurrence, alors que Marie, elle, se tenait au pied de Jésus. Nous avons chanté tout à l'heure « Je viens en ta présence ». Cette histoire, c'est la priorité de la sérénité confiante dans le Seigneur sur l'agitation, de la confiance en Dieu sur les inquiétudes, et aussi du choix des bons moments à passer dans la présence du Seigneur et à ne pas nous laisser envahir par nos emplois du temps qui font tout pour nous éloigner de ces temps de présence au pied du Seigneur qui sont si précieux pour notre vie spirituelle. Priorité de préoccupation. Priorité aussi de proximité. Et si j'évoque cette priorité, à quelle récit de Jésus, parabole de Jésus, pensez-vous que nous devions faire allusion? Le bon samaritain. Je vous rappelle l'histoire. Un homme est attaqué en chemin, il est laissé pour mort sur le bord de la route. Passe un lévite. Un lévite, c'est fait pour, non pas pour léviter, mais pour aller servir Dieu. Un lévite. Un sacrificateur, par contre, c'est fait pour sacrifier. Des tâches conforme à la loi de l'Écriture, des tâches sacerdotales, il passe, ne s'arrête pas, préoccupé par l'objectif légaliste d'observation de la loi, et il y a tout un message ici aussi derrière, arrive un bon samaritain, étranger, plus ou moins pariant en Israël, et c'est lui qui délaisse sa préoccupation de l'objectif de son voyage, qu'on ne connaît pas, mais qui était probablement important. S'il voyageait, il voyageait pour un but, pour s'occuper de cet individu au bord du chemin. Et Jésus dit cette parabole pour dire, voilà, la priorité de proximité, de préoccupation pour l'autre, elle est là, ton prochain. Et Jésus va décliner cette priorité également dans des sens auxquels nous pensons souvent pas vraiment. Parce que le plus proche prochain que nous avons, c'est qui ? C'est notre conjoint, notre conjointe. Ce sont nos parents, ce sont nos enfants, c'est notre famille. Et Jésus qui paraissait avoir été si dur lors des noces de Cana vis-à-vis de sa mère. C'est lui qui, au moment où il est sur la croix, se tourne vers Jean et lui dit « Voici ta mère » pour lui confier la protection, probablement aussi la subsistance de Marie, que l'on pense être veuve à ce moment-là de sa vie. La préoccupation pour les nôtres. Et l'apôtre Paul à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 5, je crois le verset 18, dit que celui qui ne... Attendez, je vais le lire dans le texte pour ne pas le mal le traduire. 1 Timothée 5, ça doit être 8 plutôt. « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. » C'est quelque chose de fort. À savoir que lorsque nous pensons prochain, nous pensons souvent voisins, le SDF que nous croisons tous les jours sur la route, etc. Certes, il ne faut pas les oublier, ceux-là. Mais il y a d'abord et avant tout la priorité de soins à notre famille. Et aux pharisiens qui avaient traduit cela en disant « Oui, mais si je fais une offrande au temple, etc., d'après la loi, cela m'exonère de m'occuper de mes parents âgés. » Le Seigneur dit « Non, le commandement « Honore ton père et ta mère » garde toute sa validité. » Et la préoccupation rituelle, religieuse, légaliste, dans tout ce qu'il y a de plus noir, ne doit pas t'éloigner de cette préoccupation. Et il fustigeait cette hypocrisie des pharisiens en redéfinissant cette notion de proximité. D'abord, les tiens. Et le second, plus proche prochain que nous pouvons rencontrer. Pardon ? Second, plus proche prochain. Dans Galates, au chapitre 6, le verset 10, dans l'exhortation que Paul fait de ne pas se lasser de faire le bien, Galates chapitre 6, verset 10, voilà, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien, mais en définissant un ordre de priorité, envers tous et surtout envers les frères en la foi. Le Seigneur a appelé ses enfants à vivre dans une dimension communautaire. Et il n'y a pas de vécu de la foi sans dimension communautaire. Il n'y a pas de notion individualiste. C'est ce qui fait l'Église locale. Ce que nous appelons parfois la famille que nous constituons de frères et sœurs. Eh bien, notre priorité de développement après notre famille, de liens, de relations, etc., c'est dans le cadre de l'Église locale, lorsque nous sommes invités à faire le bien. Nous préoccuper de ceux qui nous sont proches au sein de cette même communauté. Avant les pauvres de la rue et du bout du monde, le Seigneur nous dit « Il y a ton frère, ta sœur. Tu es assis peut-être sur le même banc, tu es assis sur la chaise à côté, tu es venu louer le Seigneur avec eux, tu es venu prendre la scène, partager le pain et le vin, ce signe de communion avec eux. Eh bien, si tu dois choisir où tu dois pratiquer le bien, sans oublier le reste, bien entendu. » Mais c'est d'abord et avant tout envers tes frères et tes sœurs dans la foi, avec leurs besoins matériels, avec leurs besoins spirituels. Et en 95, dans l'Église, nous avons fondé une branche associative pour prendre ce verset vraiment au sérieux et nous dire « Nous ne voulons pas tolérer qu'au milieu de nous, il y ait des gens qui manquent de l'essentiel et au moins essayer de nous préoccuper ». Et nous avons fondé l'association Grâce, dont nous parlons parfois, pour aider dans des démarches, pour aider financièrement, par des dons en nature, par des soutiens, par un encouragement des frères et des sœurs qui peuvent vivre des situations difficiles au sein même de la communauté. Et comme seconde priorité, eh bien, il y a envers tous. Mais il y a un ordre, là encore, de priorité que l'Écriture nous trace. Dernière priorité que je voudrais aborder, je serai obligé d'en laisser un certain nombre pour une autre prédication, pour ne pas faire trop long, la priorité à l'individu et aux relations. Le repas chez Marthe et Marie, comme la parabole du Mont Samaritain, met en évidence que pour Jésus-Christ, ce qui est important, ce n'est pas l'œuvre, ce n'est pas le message, ce n'est pas le projet, la stratégie qui se réalise dans la vie de Christ, mais c'est les individus qu'il rencontre, les relations qu'il noue avec ces individus. Le matériel humain, si j'ose dire, était d'une importance capitale pour notre Seigneur. Il prévalait sur les tâches à exécuter. Marthe se préoccupait de quelque chose de légitime. Il faut préparer un repas. Et vous espérez tous que vos épouses y ont pensé pour ce midi. Mais il le faut. Mais l'humain est beaucoup plus important. Et s'il faut payer du prix du bon rôti qui ne sera pas cuit dans le four, parce que vous êtes resté un quart d'heure de plus à la fin du culte pour encourager un frère ou une sœur qui sont dans la détresse, dites gloire à Dieu et mangez un sandwich, passez au McDo. Jésus marquait la priorité pour l'individu. Jésus marquait la priorité de l'individu sur la mission, sur le ministère. Le sacrificateur et le lévite avaient un ministère et une mission à accomplir, conforme à la loi, conforme à ce que globalement Dieu voulait. Mais ils sont passés à côté de la priorité, qui était la priorité de l'individu qui avait besoin d'eux au moment présent, et non pas demain ou après-demain, et qui avait besoin d'eux là, sur la route de Jéricho. La priorité sur les exigences rituelles ou légalistes. Jésus, à plusieurs reprises, a accompli délibérément des guérisons le jour du sabbat. Provocateur. Renverser le légalisme pharisien en disant « l'homme prévaut sur le sabbat ». Les besoins de l'homme, l'amour pour l'homme prévaut sur la loi et le légalisme. Et le salut qu'il nous a offert, sa mort sur la croix, ce n'est pas autre chose que la priorité de l'amour sur la loi qui condamne, la priorité de la grâce que notre Seigneur a manifestée. Et dans l'Écriture, dans 1 Corinthiens au chapitre 13, l'apôtre Paul, je vais peut-être lire, je cite beaucoup de choses un petit peu de tête en faisant référence à des textes ou des histoires qui sont très connues dans l'Écriture, excusez-moi. Mais l'apôtre Paul dit « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si tant est qu'il en existe, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. » L'apôtre Paul ne fait pas autre chose que d'insister sur cette priorité aux relations humaines, des relations d'amour, bien entendu, sur les ministères, les projets, les programmes, les dons, les signes, les miracles ou tout ce que l'on peut imaginer, y compris même la foi. L'amour prévaut. Et dans notre réflexion continuelle en tant qu'ancien dans l'Église, et c'est quelque chose, je dois le dire, qui me préoccupe et me reprend régulièrement. Il nous faut constamment nous rappeler que ce qui fait notre communauté, ce qui est précieux au sein de notre Église, ce ne sont pas les bâtiments, les projets, les programmes, les activités, le ministère de l'un ou de l'autre, la croissance même numérique de la communauté. Ce n'est pas l'œuvre, les dons, la stratégie que l'on peut avoir. Mais ce sont les individus que Dieu a placés au sein de cette même communauté. C'est notre richesse à chacun. Nous sommes membres les uns des autres. Et si nous ne comprenons pas ça en ce début d'année, je crois que nous ne pourrons pas vivre une année pleine dans notre vie d'Église. Nous sommes le capital richesse les uns des autres. Et tout à l'heure, en sortant, en saluant tel ou tel frère ou telle sœur, rappelez-vous, qu'il est votre capital richesse, parce que Dieu l'a placé, lui, à vos côtés, parfois pour vous reprendre, parfois pour vous réformer, parce qu'il n'est pas toujours facile à vivre, mais pour que vous puissiez l'aimer et qu'au travers de la relation avec lui, le Seigneur perfectionne votre sainteté. C'est la même vocation au couple. Steph, tu peux sortir le livre que je viens de te donner ? Il y a un livre... Il y a un livre qui vient de sortir, je vais le citer de tête, peut-être en déformant un peu les termes, qui vient de sortir sur le mariage. Et j'ai beaucoup aimé le sous-titre. où il dit « Et si Dieu avait prévu le mariage, c'est-à-dire le côtoiement constant d'un conjoint, qui n'est pas toujours, il faut bien l'avouer, ce qu'on voudrait qu'il soit. Et si Dieu avait prévu cela pour votre sainteté, et si Dieu avait imaginé le mariage aussi pour vous rendre saints, eh bien, et si Dieu avait imaginé l'Église locale, surtout pour nous rendre saints. Parce que dans ces relations, si nous les avons comprises, qu'elles ont l'importance et qu'elles sont notre richesse et qu'elles sont précieuses pour nous, si nous avons compris qu'au travers de ces relations, Dieu, en fait, réforme notre cœur profondément. Alors là, nous aurons compris le sens de l'Église locale et la priorité que notre Seigneur a voulu donner aux individus sur les choses, sur les programmes, sur les événements ou sur quoi que ce soit. Dieu est un Dieu d'ordre. Et il veut que nous vivions dans cet ordre aussi dans notre vie spirituelle. Et qui dit ordre, dit sens des priorités. Et le Seigneur nous invite, en ce début d'année peut-être, à réviser un certain nombre des priorités que nous pouvons avoir dans notre vie. Dans le domaine de l'autorité de Dieu sur notre vie, par rapport à mon propre esprit d'indépendance, ma propre volonté qui s'exerce plutôt que la sienne, tellement à l'opposé du comportement de Jésus-Christ. L'autorité de Dieu qui s'exerce sur ma vie plutôt que l'emprise encore du passé, y compris du passé familial, de la culture qui a pu me marquer. La priorité de l'autorité de Dieu dans ma vie sur la tradition, la religion dans laquelle j'ai peut-être été élevé, où il y a des bonnes choses probablement, mais elles ne sont pas toutes bonnes lorsqu'elles s'imposent sur ma vie plus que l'amour et la soumission à notre Dieu. La priorité de l'autorité de Dieu sur ma vie par rapport à l'emprise que le monde, la société, avec son bruit assourdissant, veulent exercer sur ma vie, cette influence qu'ils veulent exercer sur ma vie. La juste priorité aussi de mes préoccupations dans ma vie, le royaume de Dieu, prioritaire sur mes inquiétudes et mes agitations. La priorité de mon prochain, le plus proche, celui avec lequel je suis appelé à vivre jour après jour, ma propre famille, mon conjoint. La priorité des relations avec ceux qui sont mes frères et sœurs dans la foi. La priorité de l'individu sur les structures ou les projets. Le Seigneur nous invite à reconsidérer ces priorités. Je réserve pour un autre temps de prédication, d'autres priorités que Jésus-Christ dessine dans son comportement et dans son enseignement. Et je nous laisse à chacun, parce que c'est dans notre cœur que se dessinent ces priorités. Et le Seigneur veut que nous fassions du cœur, de la bonne santé de notre cœur, de la bonne façon de penser dans notre cœur, de la bonne façon de vouloir de dessiner ce qui est important ou ce qui l'est moins, ce qui est urgent et ce qui l'est moins. C'est dans notre cœur que ça se passe et le Seigneur veut que nous le gardions plus que toute autre chose. Amen.